France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
J'avais 13 ans et l'on me disait que Debussy était papa gâteau, un gentil père de famille. J'abordais pour la première fois l'œuvre de Debussy avec Les jardins sous la pluie des estampes. Et il est vrai que j'en faisais plutôt un orage qu'un jardin sous la pluie. Mais tout de même, papa gâteau pour sa petite fille chouchou, sans doute. En tout cas, je ne l'imagine pas ce Debussy tout en rondeur et sonorité enveloppée. Avec un tempérament aussi passionné, amoureux, sensuel, prenant des risques dans une société très Troisième République, peu sociable au fond, d'une intelligence redoutable, son exigence créative me donne envie de lui rendre cette justice au piano. Debussy peut être très violent. Debussy est bien décousu. Je n'ai pas tenté de structurer mon propos, mais suivre le moment que m'inspirait telle ou telle œuvre. Et puis, avec Debussy, on peut bien sûr analyser son œuvre, chercher dans tous les coins les éléments qui structurent telle pièce ou telle autre, mais et après, son œuvre est insaisissable. Le charme opère toujours, toujours. Et ce charme ne nous donne pas les clés du mystère de l'interprétation. Pour les musiciens français, Debussy est inscrit dans nos gènes. Pour bon nombre d'œuvres, la réalisation pianistique n'est pas si difficile. En 2 ou 3 ans de piano, on a les arabesques. Ou alors... Vous avez reconnu le Little Negro, ou alors même ça. Tellement merveilleux cette petite phrase du Petit Berger qui est un extrait du Children's Corner. Puis il y a des préludes aussi qu'on peut jouer. Mais au fur et à mesure du travail, une évidence qui s'impose pour la musique de Debussy, il faut une qualité d'écoute, une imagination sonore toute personnelle pour rendre les sonorités multiples des couleurs qui sont dépeintes sur le papier à musique. Les sons chez Debussy nous guident pour nous perdre complètement dans l'infini. Et je veux dire qu'il est difficile de retraduire par les mots cette impression qui nous engloutit dans cette nuit silencieuse. Une seule note grave et c'est une vibration de l'herbe. Une gerbe de son sonne comme un ray de lumière inattendu. Un accord en ré mineur livre tout autant la mort que la froideur nocturne. Un arpège dessine une courbe délicate, une volute expressive, celle d'une chevelure féminine pleine de volupté. Thank you. vous aurez reconnu ce merveilleux prélude, la fille au chevet de l'Ain. Enfin, toute la musique de Debussy est une perpétuelle invitation au voyage. Ces quelques mesures, on est dans le prélude « La terrasse des audiences du clair de lune ». Le piano est transcendé. À chaque mesure, c'est un timbre d'orchestre qui est suggéré. Les corps. Les corps dans l'orchestre en sourdine au fond de l'orchestre. Et sur ce chant... une espèce de ruban par la flûte qui est soutenu par un pitch de harpe et cette basse qui vient comme un gong, je dirais, aux sonorités orientales. En l'espace d'une mesure et demie, deux mesures, le spectre du piano est complètement exploré. Et on assiste là vraiment à une spatialisation, je dirais, de sa musique, une espèce de mystère qui est dévoilé sur un univers qui nous est inconnu. Puis en plus, l'Orient était tout nouveau à Paris, on découvrait la culture orientale. Debussy était totalement emballé par toutes les influences du Japon, de la Chine, de l'Inde, enfin toutes ces cultures exotiques qui ont ouvert le spectre musical très 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 classique de l'époque, il faut bien le dire. Debussy est l'un des premiers à avoir développé simultanément les registres extrêmes aigus et graves. Par exemple... On écoute cette terrasse des audiences du clair de lune par Gieseking. Thank you. Derrière cette musique mystérieuse, j'ajoute tout de même que mon Debussy, d'abord ce n'est pas le mien, mais plutôt ce que j'entends, ce que je ressens de Debussy, est presque autant impressionné par la vivacité du chroniqueur de son époque que par sa musique. Avec Monsieur Croche, Debussy, dans ses réflexions sur l'art, s'est fait l'écho de tout ce qui bouge, sur le plan sociétal, musical évidemment, et avec beaucoup de drôlerie sur l'avenir de la création. L'intelligence du propos sur un ton ironique et les images hilarantes de moquerie, je ne sais plus, là je vous avoue, ne plus savoir de quel compositeur il se moquait en soulignant que les cymbales éternuaient au nez des flûtes. Mais voilà ce qu'il dit de Till Eulenspiegel de Strauss lors d'un concert à Paris où évidemment il faisait la chronique de cette soirée musicale. Une heure de musique nouvelle chez les fous. Des clarinettes y décrivent des trajectoires éperdues, des trompettes y sont à jamais bouchées, et les corps, prévenant un éternuement latent, se dépêchent de leur répondre poliment à vos souhaits. Une grosse caisse fait des boum-boum qui semblaient souligner les coups de pied des clowns. On a envie de rire aux éclats ou de hurler à la mort, et l'on s'étonne de retrouver les choses à leur place habituelle. Car si les contrebasses soufflaient à travers leur archet, si les trombones frottaient leur cylindre d'un archet imaginaire, et si l'on retrouvait Maestro Nikisch assis sur les genoux d'une ouvreuse, il n'y aurait rien là d'extraordinaire. Cela n'empêche nullement que ce morceau soit génial par certains côtés, et d'abord par sa prodigieuse sûreté orchestrale et de mouvements frénétiques qui nous emportent du commencement à la fin et nous obligent à passer par toutes les équipées du héros. Savez-vous, pour continuer un peu sur ce ton ironique, que, je cite, « Il y a eu ces dernières semaines un grand arrivage de chefs d'orchestres allemands. C'est moins grave qu'une épidémie, mais ça fait beaucoup plus de bruit, un chef d'orchestre étant multipliable par 90. C'est ce pauvre Beethoven qui en souffrira le plus. Tel ou tel chef possède le vrai mouvement. Où ces personnes prirent-elles tant d'assurance? Reçurent-elles des communications de l'au-delà? Et si la pauvre âme de Beethoven erre parfois dans une salle de concert, elle doit vite remonter vers ce monde où ne s'entend plus que la musique des sphères. Et le grand aïeul Jean-Sébastien Bach doit lui dire un peu sévèrement « Mon petit Ludwig, je vois à votre âme un peu crispée que vous êtes allé encore dans de mauvais lieux. » Vous voyez, Debussy, les commentaires qu'il a pu apporter sur la musique de son temps sont si riches de réflexions, de positionnements aussi. Enfin, je n'en connais pas d'autres qui aient pu à ce point rendre cette espèce de saveur particulière qui habitait les salles de concert parisiennes. Un autre exemple, on dit que Debussy n'aimait pas Saint-Saëns. C'est totalement faux. Et par ce témoignage, on entend tout le respect que Debussy avait au fond conservé à ce maître de la musique du classicisme, je dirais. En revanche, je dois dire que Saint-Saëns a toujours combattu Debussy. Ça, l'esthétique sonore de sa musique lui déplaisait fortement. Mais au sujet de Saint-Saëns, Debussy dit « Comment est-il possible de s'égarer aussi complètement ? Monsieur Saint-Saëns est l'homme qui sait le mieux la musique du monde. » Comment oublia-t-il qu'il fit connaître et imposa le génie tumultueux de Liszt et sa religion pour Bach ? à une époque où cet acte de foi était aussi un acte de courage. Bref, mais M. Croche se radoucit un peu en pensant à la danse macabre. M. Croche se rappelait joyeusement le bruit des sifflets qui en accueillirent la première audition. On sentait qu'il avait beaucoup aimé jadis M. Saint-Saëns, et son dépit ne venait que du changement de ce dernier, qui, pour lui, équivalait à une trahison.
Muraro au piano. C'est l'été sur France Musique. Roger Muraro.
La profondeur de l'émotion de M. Croche est un vrai rempart à la médiocrité. Et si je parle de cet aspect, c'est que je ressens les liens indissolubles entre la parole et l'acte. La musique de Debussy ne fait aucune concession à l'inutile. L'amour entre Péléas et Mélisande est avoué dans le silence, loin des déclamations habituelles de l'époque. L'harmonie d'un moment parle de beauté, le rythme parle de la nature, tout est mouvement. Et au piano, je ne cesse de m'émerveiller face à l'écriture si raffinée par toutes les émotions qui surgissent et disparaissent aussi vite. Ça ne cesse jamais. Un exemple. Dans l'étude pour les cinq doigts, il suffit d'une note dès la deuxième mesure pour faire dérailler le petit train-train de cet enfant au piano très sage et qui fait son petit exercice avec application. Fa sol, tout simple, et puis voilà. Il suffit de ce la bémol pour faire dérailler tout. Et à partir de là, c'est le départ d'une gigue enjouée, pleine de rêverie. L'enfant s'égare. Il revient à l'exercice. Et toute l'étude va marcher comme ça. Des moments abrupts rappellent l'enfant à son ouvrage. Bref, l'histoire est facile à imaginer. Mais je dois vous dire que j'ai eu bien du mal à raccrocher tous ces bouts, quoi. Oui, l'étude est faite de petits bouts, un peu comme des images au cinéma qui s'enchaînent, dont il faut trouver le lien de l'une à l'autre. Il faut passer de l'exercice à un rebateau complètement abandonné, reprendre le mouvement. Je serais tenté de dire que c'est une histoire sans parole. Puis alors, bon, c'est tout bête, mais il n'y a rien de plus difficile, délicat à faire que Do, Ré, Pi, Fa, Sol, Fa, Pi. Cet petit exercice à nu au piano, je vous assure que quand on monte sur scène, on a plutôt intérêt à avoir un esprit bien campé pour rester sage alors qu'on est un peu en déséquilibre. Au fond, cette étude est une lutte à qui perd gagne. Ça s'anime jusqu'au moment où le gamin claque le couvercle du piano. Après la gamme de la fin. C'est presque un et flûte, pour ne pas dire le mot de cambronne, qui conclut la pièce. Mais c'est oublier que cette étude est dédiée à M. Czerny, et peut-être est-ce que c'est Czerny, furibard, qui gronde et qui renvoie l'élève distrait. C'est très tendre, c'est très drôle, c'est vif. Pour moi, c'est un concentré d'intelligence.
On fait.
Voilà, je viens de vous jouer cette étude pour les cinq doigts de Debussy. L'art est le plus beau des mensonges, dit Debussy. Et quoi qu'on essaye d'y incorporer la vie dans son décor quotidien, il faut désirer qu'il reste un mensonge, sous peine de devenir une chose utilitaire, triste comme une usine. Le peuple aussi bien que l'élite ne viennent-ils pas y chercher l'oubli, ce qui est encore une forme de mensonge? Le sourire même de la Joconde n'a probablement jamais existé matériellement, pourtant son charme est éternel. Et puis avec Debussy, que voulez-vous, il faut regarder, il faut écouter, il faut aller ailleurs, il faut se laisser porter par l'inspiration. Et lui-même était, comme vous le savez, un amoureux de la nature. Alors voici une de ses pensées face au spectacle, je ne sais pas, au spectacle des prairies, du ciel.
Je m'étais attardé dans les campagnes remplies d'automne, où me retenait invinciblement la magie des vieilles forêts. De la chute des feuilles d'or, célébrant la glorieuse agonie des arbres, du grêle angélus, ordonnant aux champs de s'endormir, montait une voix douce et persuasive qui conseillait le plus parfait oubli. Le soleil se couchait tout seul, sans que nul paysan ne songeât à prendre, au premier plan, une attitude lithographique. Bêtes et gens rentraient paisibles, ayant accompli une besogne anonyme, dont la beauté avait ceci de spécial, qu'elle ne sollicitait pas plus l'encouragement que la désapprobation. Elles étaient loin, les discussions sur l'art où les noms des grands hommes prennent parfois l'apparence de gros mots. Elle était oubliée, la fièvre artificielle et mauvaise des premières. J'étais seul et délicieusement désintéressé. Peut-être n'ai-je jamais plus aimé la musique qu'à cette époque où je n'en entendais jamais parler. Elle m'apparaissait dans sa beauté totale, et non plus par petits fragments symphoniques ou lyriques surchauffés et étriqués. Au fond, nos peintres symphonistes n'accordent pas une attention assez fervente à la beauté des saisons. La musique est précisément l'art qui est le plus près de la nature, celui qui tend le piège le plus subtil. Malgré leurs prétentions de traducteurs assermentés, les peintres et les sculpteurs ne peuvent nous donner de la beauté de l'univers qu'une interprétation assez libre et toujours fragmentaire. Ils se saisissent et ne fixent qu'un seul de ces aspects, un seul de ces instants. Seuls les musiciens ont le privilège de capter toute la poésie de la nuit et du jour, de la terre et du ciel, d'en reconstituer l'atmosphère et d'en rythmer l'immense palpitation.
comme à mon habitude, j'aime en savoir un peu plus sur le compositeur que j'aborde. Le jeune homme venait de loin, éducation très parcellaire. Il écrivait avec des fautes d'orthographe, il était maladroit, dissipé, farouchement indépendant. Rappelons-nous cette anecdote dans la classe d'harmonie d'Émile Durand. Vous savez, cet exercice de base qui consiste à l'harmoniser d'une manière très classique et que Debussy a fini par faire, qui commence Les danseuses de Delphes, le premier prélude du premier livre des préludes. Debussy, pianiste prometteur, selon Gabriel Pierné. Il fonçait avec rage sur certains passages de virtuosité, brusquant son clavier parfois. En tout cas, je peux vous dire que c'est loin des clichés que la culture française va lui attribuer très rapidement. Et puis, le compositeur s'est imposé par la volonté de révolutionner la musique française en prônant un retour aux inflexions naturelles, libéré du joug éducatif. D'ailleurs, il voulait réduire les études de la classe d'harmonie à son minimum.
Harmonie du soir. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui hait le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui hait le néant vaste et noir. Du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, ton souvenir en moi luit comme un ostensoir.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano, Roger Muraro.
Et puis vient 1903. Bon, alors écoutez, je fais des sons. Bon, écoutez, je propose une chose. Je la joue une deuxième fois.
Là, je vais vers une œuvre, alors qui est une œuvre phare du répertoire du piano du début du XXe siècle.
Oui, non, mais je voudrais essayer. Mais elle est trop lourde, elle n'est pas fluide, elle n'est pas amusante, elle n'est pas... Je la rejoue une fois, hein.
L'île joyeuse et son inspirateur, le peintre Watteau.
ce tableau intitulé « Le pèlerinage à l'île de Cythère ». Je rappelle quand même que Cythère abritait le temple dédié à la déesse de l'amour Aphrodite. Et dans cette toile de Watteau, le rococo privilégie la couleur, le flou des lumières, l'érotisme qui se dégage des roses or et bleu, les dégradés de ton, les personnages aussi, avec leur posture qui progressivement vont s'enlacer, l'eau, les petits amours voltigeants. Enfin, cette représentation, j'allais dire idyllique, d'un voyage vers cette île, cette représentation a sûrement résonné 2 siècles plus tard, avec la célébration heureuse de l'amour entre la cantatrice Emma Bardach et Claude Debussy.
Debussy et Watteau. Celui-ci meurt, les années passent. Le silence se fait, organisé par des confrères qui savaient bien ce qu'ils faisaient. Maintenant, le soleil de gloire illumine le nom de Watteau et aucune orgueilleuse époque de la peinture ne peut faire oublier le plus grand, le plus troublant génie du XVIIIe siècle.
Je vous avouerai qu'à la vue du tableau, j'ai été surpris. Car cette toile faite d'élégance séductrice, au personnage de chair palpable, ne correspondait pas pour moi aux couleurs que je m'étais imaginées dans l'œuvre de Debussy. Je les voyais plus mystérieuses, ces couleurs, plus grises, surtout au commencement, à la fois plus rêveuses, plus mouvantes et progressivement plus lumineuses et éclatantes même à la fin. En fait, la musique me racontait une histoire, j'allais dire une évolution sensuelle, oui. Et avec le tableau, qui est pourtant narratif, eh bien, l'image s'imposait et constituait presque un frein. Mais Debussy ne disait-il pas « Les peintres et les sculpteurs ne peuvent nous donner de la beauté de l'univers qu'une interprétation assez libre et toujours fragmentaire ». L'île joyeuse est probablement l'œuvre la plus solaire du compositeur. Elle commence par un tri délicat, par une flûte au loin. Elle improvise sur un décor encore un peu brumeux, avec un souffle marin. Avec sa gamme parton, et petit à petit, de ces décors va s'installer le bleu aquatique du La majeur. Et d'ailleurs, ce La majeur va être la tonalité principale de toute l'œuvre. La main gauche, c'est... Voilà, très très vite, on s'imagine, n'est-ce pas, le mouvement du ressac sous cette petite... Sous cette petite farandole légère, déjà pleine de joie, qui va habiter toute la pièce. Ce thème va être pris, va être développé. Enfin, bon, je ne vais pas m'insister sur cette analyse assez stérile au fond. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a plein de trouvailles. Les mains croisées à un moment. Qui, au milieu de ces espèces de petits mouvements sinueux, fluides, d'un seul coup, il y a des raies de lumière. Là, on dirait que un rayon de soleil vient illuminer un flot avec ses harmonies complètement inattendues. C'est absolument superbe. Et vient là quelque chose de splendide, c'est ce que j'appelle le thème d'amour. Thème d'amour où Debussy livre toute sa sensualité. C'est un chant à la main droite avec des accords. Et là, il trouve même le moyen dans ses accords, la suite, de mettre les deux personnages à la fois. Celui-ci et l'autre. Dans les mêmes accords. Et sous ce chant absolument chaloupé avec ce rythme, Debussy nous encombre avec une main gauche en quintolet, une espèce de rythme irrationnel. Une espèce d'ondoiement comme ça de cette main gauche. Alors elle vient sur un rythme de ma droite. C'est parti à nouveau pour une espèce de virtuosité tout à fait discrète, évidemment, mais alors qui ruisselle, enfin une chose très légère, pas facile d'ailleurs, je dois le dire. Mais bon, voilà, ce thème est absolument magnifique de sentiments, d'exaltation. Bon, c'est contenu, évidemment, ça ne peut pas être du Wagner tout de même, mais Debussy, on le sent, Debussy aimait Chopin, et on entend toute la souplesse du chant de Chopin dans cette main droite, on entend cette main gauche indépendante et qui régit, je dirais, toute cette souplesse, ce sentiment du rubato. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez difficile à jouer cet endroit-là, parce que il n'y a pas, et encore moins chez Debussy que chez les autres compositeurs, il ne peut pas y avoir de liberté sans la règle, j'allais dire, la règle du rythme. Debussy a eu la force d'écrire de manière métrique ce que pouvait être la liberté. La main droite est libre et la main gauche chante également, d'une manière égale. La fin de l'île joyeuse est brillante, elle est optimiste, les trompettes sonnent sous des doigts dynamiques, face à une explosion de couleurs. Le motif flûté du départ, d'ailleurs, revient, mais alors, à une vitesse terrible. Enfin, l'œuvre se termine à la limite de l'essoufflement. C'est un début si rare et on écoute Rubinstein jouant cette île joyeuse. Alors c'était donc la version enregistrée, figurez-vous, par Arthur Rubinstein, que je n'attendais pas du tout dans ce répertoire. Et il m'a redonné envie de retravailler cette œuvre, de la remettre à mon programme, parce que c'est une réjouissance pour les sens de jouer cette île joyeuse. Avant cette île joyeuse, Debussy a vécu bien des tourments avec la musique de Wagner. C'est vrai qu'il en raffolait, et puis il s'est mis à la rejeter. Souvenez-vous du rire du Gollywood's Cakewalk par Debussy. Par rapport à Wagner, Debussy n'a cessé d'insister sur l'originalité du propos français. Un propos français qui était face aux lourdeurs, aux explications de texte de la musique de Wagner. Et il se moquait même, Debussy se moquait même des Français qui en subissaient l'influence. Pour Debussy, Rameau, Couperin étaient ses armes favorites, pour témoigner de ce que la France, tardive à le reconnaître, avait produit de meilleur. Et vient 1905-1907, les images. Et Debussy dit, nous avons dans Rameau le double de Watteau.
Nous avions pourtant une pure tradition française dans l'œuvre de Rameau, faite de tendresse délicate et charmante, d'accents justes, de déclamations rigoureuses dans le récit, sans cette affectation à la profondeur allemande. Il faut dire ce que cette musique conserve de fine élégance, sans jamais tomber dans la feutrerie, ni dans des tortillements de grâce louche. Le besoin de comprendre est inné chez Rameau. N'est-ce pas pour y satisfaire qu'il écrivit un traité d'harmonie où il prétend restaurer les droits de la raison, ordre et clarté géométrique? L'immense apport de Rameau est ce qu'il sut découvrir de la sensibilité dans l'harmonie, ce qu'il réussit à noter certaines couleurs, certaines nuances dont, avant lui, les musiciens n'avaient qu'un sentiment confus.
L'hommage à Rameau de Debussy fait partie du premier livre d'images. Et Debussy en était assez fier. Il admettait même que cette œuvre pouvait sans rougir prendre place à gauche de Schumann ou à droite de Chopin. Cet hommage à Rameau par Debussy emprunte au mode grec pour installer un climat qui est empreint de nostalgie et d'élégance, surtout dans sa mélopée d'introduction. Chaque accord de cet hommage à Rameau, chaque accord suggère une teinte. Chaque accord est une émotion différente. Toute cette pièce superbe de jaillir de tout ce tableau se dégage un sentiment d'une telle noblesse, d'une grande noblesse déchue. La fin de cet hommage à Rameau était très émouvante. C'est une gamme qui suffit à évoquer la tristesse. Sur cette gamme, il y a d'ailleurs un rappel d'un motif qui a hanté, je dirais, tout cet hommage. Et ce sont comme des appels à un temps passé, une grandeur qui n'est plus. Et étrangement, j'ai trouvé que cet hommage à Rameau par Debussy résonnait avec une fable de Jean Anouilh, Le chêne et le roseau, qui, vu par Jean Anouilh, en contre-pied évidemment de la fable de La Fontaine, cette fable illustre parfaitement cet hommage à Rameau. On l'écoute.
Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: n'êtes-vous pas lassé d'écouter cette fable? La morale en est détestable. Les hommes bien légers de la prendre au marmot. Plier, plier, toujours, n'est-ce pas déjà trop le pli de l'humaine créature? Voir, dit le roseau, il ne fait pas trop beau, le vent qui secoue vos ramures, si je puis en juger à niveau de roseau, pourrait vous prouver, d'aventure, que nous autres, petites gens, si faibles, si chétifs, si humbles, si prudents, dont la petite vie est le souci constant, résistons pourtant mieux aux tempêtes du monde que certains orgueilleux qui s'imaginent grands. Le vent se lève sur ces mots, l'orage gronde, et le souffle profond qui dévaste les bois, tout comme la première fois, jette le chêne fier qui le narguait par terre. « Eh bien, » dit le roseau, le cyclone passé, il se tenait courbé par un reste de vent. « Qu'en dites-vous donc, mon compère ?» Il ne se fut jamais permis ce mot avant. « Ce que j'avais prédit n'est-il pas arrivé ?» On sentait dans sa voix sa haine satisfaite. Son morne regard allumé, le géant qui souffrait, blessé, de mille morts, de mille peines, eut un sourire triste et beau, et, avant de mourir, regardant le roseau, lui dit « Je suis encore un chêne ». Thank you.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Je ne peux éviter de parler un peu de Pelléas, évidemment, l'ouvrage de Debussy qui a été créé en 1902. Pourquoi je veux en parler? Parce qu'il a laissé des traces vraiment très fortes dans les études, qui est un sujet vraiment, pour le coup, un sujet d'étude pour moi très important. Ce Pelléas, Debussy disait, les personnages de ce drame tâchent de chanter comme des personnes naturelles et non pas dans une langue arbitraire faite de traditions surannées. Ce propos, pour moi, est très important, car il décline tout l'abord de la musique de Debussy au piano. C'est-à-dire un discours naturel, le texte est évidemment écrit avec beaucoup de précision, on le respecte, il n'est pas nécessaire dans ce texte de rajouter et de rendre plus pathétiques les séquences, plus encore que ce que Debussy pourrait suggérer à tel ou tel endroit. D'ailleurs, pour aborder ces études, moi, l'opéra en question, je l'ai joué plusieurs fois au piano. C'est-à-dire que j'avais la partition de piano en réduction, bien entendu, hein, et puis je me chantais comme je pouvais, la pauvre Mélisande allait... Bon, heureusement, il n'y avait pas de témoins. Je chantais Arkel, je chantais Pelléas et même le petit Ignold.
Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené.
Les études en question sont en deux volumes. Bon, rapidement, je présente le premier volume composé des 6 premières études. Vraiment plutôt un exercice, je dirais, un peu didactique. Hein. Il y a l'étude pour les 5 doigts, là, que je vous ai. Il y a l'étude pour les tierces, l'étude très froide, très étrange pour les quartes. En quelques notes en étant en Orient, les sixtes. Alors là, qui est tout à fait élégante, enfin, je ne sais plus quel est le critique musical de l'époque, ou est-ce que c'est peut-être même Debussy lui-même qui laissait entendre qu'elle pouvait représenter ces dames anglaises très élégantes avec leur chapeau, qui prennent leur thé, qui, avec un peu de lassitude, parlent dans le salon, enfin... Bon, pourquoi pas, peut-être que c'est pour justement donner à cette étude pour les sixtes un caractère plus ludique que le propos décrit par Debussy, qui est assez sombre quand même, je dois dire. Hein. L'étude pour les octaves, extrêmement brillante. Et enfin vient, pour terminer ce premier livre, l'étude pour les 8 doigts que Debussy suggérait de jouer sans les pouces. Le second cahier d'études de Debussy est moins didactique. Alors lui, il développe des arpèges, des ornements, des couleurs sonores. Enfin, tout cela est de nature beaucoup plus poétique, beaucoup plus évocateur. Et puis, c'est le grand vrai Debussy. Ça, vraiment, celui qui travaille sur le son. Au fond, le son du piano, c'est la voix, c'est la voix du chanteur. Un son laid au piano dénote au fond une mauvaise technique, il faut bien le dire, les choses, c'est comme ça, c'est vrai. Vous connaissez évidemment cette introduction de cette sonate en si mineur de Chopin, et notre grand Walter Gieseking, qui a laissé des témoignages sur Debussy, des témoignages discographiques absolument superbes, commençait un jour son concert à Berlin par une faute comme ça. Et ça l'a traumatisé. Il s'est dit, quelque chose ne va pas dans ma souplesse, dans mon truc, dans ma technique. Et il a avoué plus tard qu'il a repensé toute sa technique de piano grâce à la musique de Debussy. Petit détail, j'attire l'attention des pianistes sur un point important. Une édition allemande a jugé bon de faire paraître ses études de Debussy avec des doigtés. C'est une folie. Debussy lui-même s'y était refusé puisqu'il avait écrit dans sa préface « Cherchons nos doigtés ». Alors, s'il vous plaît, on a une bonne édition Durand revue par Claude Elfer et Pierre Boulez. Inutile d'aller chercher ailleurs ce qui est plus mauvais. Nous avons dans l'étude pour les sonorités opposées des mesures entières qui sonnent comme les répliques de Pélias et Mélisandre. C'est vraiment sombre, c'est dramatique, c'est glacial par instant, et l'étude repose tout sur la note sol dièse. Il faudra attendre la fin de l'étude pour trouver ce qui sera définitivement la tonique, qui est le do dièse, la note finale. Et Debussy, pour cette étude, trouve des ressources de timbre, d'attaques nouvelles. Pour chaque note, il y a pratiquement 100 manières de jouer. C'est-à-dire qu'il faut passer du triple piano au pianissimo, au piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, double forte, triple forte, et vous multipliez ça par toutes les notes d'accompagnement. C'est tout cet art du toucher, cet art de partir du cœur de la touche que Debussy va développer. En fait, Debussy n'utilise jamais le marteau du piano comme une percussion. Il se sert de ses doigts pour provoquer l'action du marteau. C'est-à-dire qu'il y a une course entre le marteau et la corde. Et c'est toute cette négociation de la courbe, par la manière d'appuyer, plus ou moins vite, plus ou moins souplement, qui va changer, je dirais, toutes les couleurs de son. Et ça peut aller du plus doux au plus violent. Si je prends l'exemple de la fin de l'étude entière, c'est... Cette étude est absolument dramatique. D'ailleurs, on retrouve exactement la même chose dans la fin du quatrième acte de Péléas et Mélisande. Il y a aussi, dans cette même page, quelque chose d'absolument extraordinaire, d'une difficulté à réaliser. La main droite fait un chant. Un chant en accord parfait qui se répète, qui se déplace. Et sous ce chant, je le joue évidemment d'une manière un peu caricaturale. Hein. Il y a sous cette partie d'accord de main droite, avec le pouce, une espèce de petit mouvement, un petit ruban chromatique en notes légèrement séparées. Et sur cet accord-là, Debussy croise la main gauche. Comme une espèce de halo sonore qui joue exactement les mêmes notes, évidemment, que la main droite, mais comme si c'était une espèce de réverbération, une amplification des vibrations de l'harmonie. Ça donne ça. Un dernier petit détail qui est tellement touchant. Ce petit motif me rappelle totalement l'apparition très naïve d'Ignold dans Péléas. Un carquois avec des flèches, petit père, c'est d'une naïveté et d'une... C'est étrange d'ailleurs, parce que c'est une joie qui est mêlé d'inquiétude. C'est tout l'art de Debussy de provoquer, dans cette étude-là particulièrement, des sentiments mêlés, ou plutôt des sentiments indémêlables qui englobent toutes les facettes de l'émotion.
Thank you.
Et pour terminer le chapitre des études de Debussy, eh bien, ce sera l'étude pour les accords. Et Debussy, il a vraiment décidé de traiter les pianistes comme ils le méritent, comme des tâcherons que nous sommes. Alors à cheval et au travail, les deux mains sautent d'un rythme décidé et chacune de leur côté. Vous constaterez peut-être pour les pianistes professionnels que prudemment, je montre l'exemple dans un tempo très lent. Parce que d'abord il faudrait que je la retravaille, ce que je n'ai pas fait, parce que sinon... Et encore, il n'y a pas eu trop de fausses notes. Mais c'est redoutable. L'impression de fougue et le caractère menaçant parfois, l'enchaînement des accords parfaits sur les touches blanches. Touches noires quelquefois, il y a très peu de repères. Et écoutez, oui, on peut dire ça vraiment très vulgairement, c'est un sac à fausses notes. Mais il y a une partie centrale à cette étude qui est soudainement hors du temps. Elle est interrogative et ce ne sont que des petits appels, enfin, oui, des points d'interrogation qui partent dans l'espace comme ça. Je refais. Cette opposition de lumière entre le caractère décidé de la première partie et qu'on retrouvera d'ailleurs à la fin crée une impression d'apesanteur, une chose totalement étrange. Et à l'intérieur de cette partie-là même, nous entendrons aussi. Et ce ne sont que des petits îlots de musique qui font référence à la voix d'Arkel dans Péléas, quelquefois là aussi, quelquefois l'appel d'Ignold, encore une fois de Péléas. C'est comme si Debussy retournait peut-être, je ne sais pas, dans le passé. Est-ce qu'il y a aussi, évidemment, la guerre auquel Debussy faisait face, hein, et puis on sait quel propos il a tenu sur la musique des envahisseurs et à quel point il a voulu défendre l'esprit peut-être léger, lui-même le reconnaissait, mais particulier, qui est un génie particulier de l'art en France. Est-ce que c'est tout ça qui est retraduit dans cette étude? Bon, il y a un petit peu de littérature dans ce que je vous dis, je m'échappe un tout petit peu, mais en tout cas, je l'entends tellement que je vous livre simplement mon ressenti. Debussy est un personnage que j'aime. J'aime pour la liberté qu'il a apportée, liberté de laquelle s'est emparé tous les compositeurs du XXe siècle et ceux qui suivront. Je l'aime pour son intelligence, je l'aime pour le travail qu'il a permis de faire au piano, la découverte des sonorités les plus intimes, celles qui résonnent le plus profondément en chacun des pianistes qui jouent cette musique. Je crois que on a de la chance d'avoir eu en France un représentant si fort de la sensibilité et de l'intelligence. Nous écoutons pour terminer donc l'étude pour les accords par Walter Gieseking.
Thank you.
Nous venons d'entendre l'étude pour les accords interprétée par Walter Gieseking. Les références musicales sont à retrouver sur la page de l'émission Muraro au piano et vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger cet épisode de Bussy sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. Un grand merci à la salle Cortot, École Normale Supérieure de Musique de Paris, qui nous accueille pour les enregistrements de cette série. Un grand merci également à Lambert Wilson pour ses lectures. Aujourd'hui, l'équipe était constituée par Julien Bourdet, Tanguy Le Corneau et Michel Gassic pour les micros. L'attaché de production était Xavier Carrère et la réalisation assurée par Max James. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.